et un souffle ne passerait pas entre eux. Ils sont attachés l'un à l'autre, se tiennent et ne peuvent se séparer. Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme, la force de son cou pour demeure et l'effroi bondit au devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlable. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit pas la massue, il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards, sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une herse qu'il étend sur le limon, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums, il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard, et sur la terre nul n'est son maître, il a été créé pour ne rien craindre, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. Donc là c'est vraiment une description de cet animal à la carapace hyper costaud, les boucliers, les écailles, tout ça. Et ça, ça nous parle du corps, les amis. Ça nous parle du corps et ça nous parle de la notion biblique de koinonia, qui est la communion, qui est la communion fraternelle et qui est le fait d'être serrés les uns les autres. Et nous allons parler un peu de ces écailles, mais dans 1 Corinthiens, donc la koinonia, plusieurs versets, mais par exemple 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés tous d'un seul esprit. Donc cette koinonia dont on va parler, elle permet vraiment d'être, elle est la source, elle prend sa source dans l'esprit qui nous unit, et nous sommes ici en tant que famille appelée encore et défiée par rapport à cette koinonia. Il y a 5 points que j'aimerais relever dans le texte qu'on a lu et qu'on va un peu développer. J'aimerais, il y a vraiment des choses que Dieu m'a donné particulièrement, et ça c'est aussi un message, une partie qui a été donnée lors de la rencontre du réseau Nouvelle Connexion avec Nicolas Guillet qui a insisté aussi là-dessus. Donc les frères unis par un sceau, et le sceau nous parle de cacher l'authenticité d'un document, la signature, l'empreinte, le cachet royal, ça donne l'autorité au document, uni par un sceau. Celui qui nous a unis, c'est le Seigneur. Et nous ne sommes pas là par hasard, nous n'avons pas. Parfois, nous croyons que nous choisissons. Mais Dieu nous met dans une famille. J'espère que vous êtes convaincus dans la famille où vous êtes. C'est très important de savoir la famille à qui on appartient. Parce que à partir de là, il y a des relations d'alliance et il y a le potentiel qui se lève, et ces relations d'alliance permettent l'épanouissement de tout. Et le sceau parle de l'autorité. Et on va retrouver très fortement cette notion que dans la Bible, la plus grande autorité, c'est la famille. Il n'y a pas de plus grande autorité. Le Père, le Fils, l'Esprit, c'est la première famille. C'est lui qui a créé le monde, qui gouverne, qui dit une parole, elle s'accomplit. Et cette notion de famille, comme par hasard aujourd'hui, elle est mise à mal, elle est détruite, on veut détourner les pères, on veut que les enfants aient, ce n'est pas de père à la limite, etc. Nous savons, il y a un combat par rapport à la famille. Pourquoi ? Parce que la famille est le plus grand des gouvernements qui est appelé, qui est utilisé par Dieu pour amener le gouvernement de Dieu sur la terre. Ça parle non seulement de la famille de Dieu, Père, Fils, Esprit, mais ça parle de la famille, papa, maman, enfant, ça parle aussi de la famille spirituelle. Spirituelle que nous formons, les familles sont appelées à régner. Et c'est vraiment important à comprendre. Le combat, il est là. Il y en a un qui voit ce gouvernement, il tremble. Et alors il provoque des divisions, des incompréhensions, mais le sceau, c'est cela. Et nous sommes unis par les liens d'une autorité spirituelle, et l'autorité du corps appelle une autorité corporative. C'est pour ça que quand on prie ensemble, il y a quelque chose de très fort, d'unique. En fait, nous ne sommes pas faits pour être seuls. Et souvent, et aujourd'hui, nous sommes dans une culture où on peut aller au culte par Internet, on peut vivre seul, on peut choisir, on peut faire ce qu'on veut. Mais la Bible dit que le gouvernement, ce n'est pas tout seul. Le gouvernement, c'est toujours une affaire de famille. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour qu'on s'intègre jamais dans une famille. C'est pour ça qu'il fait tout, parce qu'il a peur de l'autorité qui est libérée quand les gens sont unis. Je rappelle en Afrique, en Guinée, ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, qui était très fort, quand j'ai vu un corps de 400 leaders, tout d'un coup, prendre le même chant, les mêmes paroles du psaume 23, le proclamer, le répéter, tout le monde, personne qui était spectateur, tout le monde qui était dedans. Et cette église levée qui prononce la même prière en même temps, l'esprit est descendu, les délivrances, les démons chassés, la guérison qui vient. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, les frères unis par un sceau. J'ai eu la joie vendredi dernier de baptiser mon fils aîné, 33 ans. 33 ans, l'âge de la mort de Jésus, mais l'âge de la résurrection. Et je pense que Dieu est en train, au niveau, au-delà de notre famille, et il veut restaurer l'autorité au travers de son Église. Dans l'indépendance et l'autonomie, il n'y a que très peu d'autorité. On parle de l'autorité du croyant, mais ce n'est rien par rapport à l'autorité d'un peuple de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre. Quand on dit « Notre Père », tout de suite après, il est dit « Que ton règne vienne sur la terre ». C'est une prière d'autorité. La prière apostolique du Notre Père, qui est énorme, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel », elle est dite par une famille. Et cette famille qui a conscience qu'elle a un Père, et que nous sommes frères et sœurs, les plus grandes prières sont libérées par les familles. Et nous devons comprendre que les frères unis par un sceau, Dieu nous a unis comme ce crocodile, les écailles, on verra des gros plans tout à l'heure, mais ces écailles sont solides, elles sont tenues ensemble. Et nous avons les frères serrés l'un contre l'autre. Regardez-moi ces écailles. Il y en a des petites, ça parle des enfants. Il y en a des plus grandes, il y a tous les âges. Et moi, ce que j'ai apprécié ce matin, et ce qu'on veut développer au niveau de l'Église, c'est une louange corporative, intergénérationnelle, où chaque enfant a sa place, où chacun peut recevoir une parole de Dieu et la libérer, et nous voulons être à l'écoute les uns des autres. Et je salue les enfants dans la danse ce matin. Nous avons besoin d'eux, ils font partie du corps, et nous avons intérêt souvent à être à l'écoute de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils entendent de la part du Seigneur. Donc être proches les uns des autres, se serrer les uns contre les autres, c'est un acte volontaire, ça ne vient pas tout seul. Et c'est vrai qu'au niveau église locale, nous devons être attentifs à cela. C'est quelque chose qui est... On ne peut pas... Le système, si vous voulez, du pasteur qui doit s'occuper de tout, on n'y est plus. On est dans un modèle apostolique. C'est différent. C'est-à-dire que chacun dans ce corps a ce rôle de berger, de gardien de son frère, d'écouter Dieu, qui c'est que tu veux que j'aille voir, qui c'est que tu ailles visiter, etc. Et ça c'est important, on a parlé de Gisèle Hanauer, qui ne peut pas se déplacer, qui habite pas loin, mais qui est là et qui nous aime, qui aime le Seigneur. Mais voyez, donc on a besoin de se serrer les uns contre les autres, et la Bible nous dit, l'air ne passe pas, tellement c'est serré que ça passe pas. Et Jésus a dit, le prince de l'air c'est qui? C'est Satan. Et ce prince de l'air, il veut passer au travers. Mais voilà, il ne peut pas passer là. Ce n'est pas possible. Il ne passe pas. Et ça, je crois que c'est une vision de la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Parfois, on croit qu'on va faire des bisous, tout ça. C'est bien, on aime beaucoup les bisous, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur nous dit que si tu es uni et que tu aimes ton frère et ta sœur, le prince de l'air ne peut plus passer. Et je peux accomplir les plans. Et ce crocodile, quand il avance, il bouffe tout. Il n'y a rien sur le passage. Et nous avons besoin de cette onction du crocodile, mes amis, pour défoncer et avancer là où Dieu nous appelle. En tant qu'Église, nous portons actuellement, par exemple, un des projets le projet de MAM, maison d'assistante maternelle, dans un local pas loin d'ici. Les dossiers sont envoyés à la mairie depuis cette semaine. Donc on veut prier pour ça, parce qu'on veut s'occuper des petits-enfants aussi, au niveau de la ville. Donc il y a des projets. Ce bâtiment, c'est aussi, on a besoin de se serrer les uns les autres. Dieu nous confie un local, il y a des tas de choses encore à vivre. On n'a pas fini. On a encore la Christothèque en bas, une discothèque pour plusieurs... Il y a encore à bâtir. Tout à l'heure, on parlait du son. Mais je dis, mais Seigneur, le son, il faut qu'on le traite dans cette salle. C'est pas possible. On est fatigué avec ce son qui fait mal aux oreilles. On a des bons groupes de louanges, on a des bons instrumentistes. Et là aussi, on croit que dans l'année qui vient, et je prie pour ça, pour 2020, qu'il y ait un traitement du son ici, que ça soit un son agréable. Une nouvelle sono, mes amis. Priez pour ça. Je crois que Dieu, il veut qu'on désire. Il veut qu'on désire et qu'on lui demande ensemble. Et moi, je lui demande, c'est pour la santé de
nos oreilles. Et pour une bonne louange, ici, on veut un traitement magnifique. Quand tu rentres, tu entends ce que Sandro dit. Ça serait magnifique, ça, déjà. Qu'on entende ce qu'il a à dire. On a besoin, mes amis, d'être serrés les uns les autres pour demander ensemble. Voyez, et puis, voyez, j'ai mis aussi être proche, serré, ça veut dire faire le tri de nos pensées. Tout ce qui sépare, tout ce qui dévie, ce qu'on a vu, ce que Nadine nous a partagé la semaine dernière sur les pensées tordues par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et ça, Dieu veut le briser, tout ce qui est pensée tordue, jusqu'à ce qu'on puisse voir la marque du Christ chez l'autre. Donc là, cette koinonia, vous voyez, c'est vraiment se serrer. Critique, jalousie, animosité, manque de pardon, tout ça nous sépare. Et quand nous acceptons que Dieu traite ça dans nos vies, alors on commence à se serrer. Et parfois, malheureusement, on doit vivre d'un peu des galères pour goûter combien ça fait du bien quand on est des frères et sœurs qui nous prennent dans les bras et qui nous tiennent. Et ça, on a besoin du corps de Christ. Donc quand on considère l'autre comme supérieur à soi, on se serre les uns contre les autres. Quand on commence à voir la dignité de notre frère, la beauté du Christ en lui, cette créature merveilleuse dont on a commencé, Timothée a commencé le culte, quand on voit cela en nous, mais dans notre frère aussi, et notre sœur, à ce moment-là, on se serre contre lui. Quand on arrête de juger les choses qui ne nous plaisent pas, on se serre les uns contre les autres. Vous voyez, quand on arrête de juger en fonction de ce qu'on voit, on se serre les uns contre les autres. Dieu nous appelle à nous serrer parce qu'il a un plan et une destinée particulière. C'est toujours l'objectif de Dieu. Et le moyen, c'est la communion et se serrer. Des frères qui s'embrassent, donc ça c'est l'équipe de rugby de France. Quand vous voyez comment ils s'embrassent, je vais vous dire, c'est impressionnant. Là, ils sont que trois, mais parfois ils sont en tas. J'ai pas eu le temps de trouver une photo. Parfois, ils sont 10, 15 à se serrer comme ça, les uns les autres. C'est vraiment quelque chose de fort. Et quand ils se portent aussi. Dernièrement, dans un séminaire, nous étions à Ambilly, le séminaire Watchmen for the Nations. Toutes les nations étaient représentées. C'était en France. On a prié pour les nations. Il y a eu un temps de louange extraordinaire. Où on a pu se porter littéralement les uns les autres physiquement, et c'était une démonstration de ce que Dieu veut faire et fait au niveau spirituel. Donc s'accepter, ouvrir nos cœurs, rentrer dans la vulnérabilité, et que chacun ici, je rappelle la notion de vis-à-vis, que personne ne soit seul, que tout le monde trouve au moins un frère, une sœur avec qui il peut tout partager. Et c'est comme ça que on avance. 1 Pierre 1:22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Voyez, purifiez vos âmes, Yom Kippour, c'est un peu ça, hein? En obéissant à la vérité, pour avoir un amour. Obéir à la vérité, c'est très bien, mais le but, c'est l'amour. Hein? Il y en a qui disent, ouais, moi j'obéis à tout, la parole et tout, c'est nickel. Oui, mais tu t'oublies l'amour. Et ça, il n'y a plus rien du coup. Hein? Donc, on obéit à la vérité pour s'aimer encore plus. C'est ça. Et donc, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Dans 1 Jean 2, 9 à 10, il est dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. » Vous vous rendez compte ? L'amour est lié au fait qu'aucun obstacle ne peut nous faire tomber. L'amour du frère et de la sœur. C'est quoi le rapport entre les pièges de la vie et aimer son frère et sa sœur ? Le rapport, il est là. Il y a beaucoup de pièges dans la vie, mais si tu aimes ton frère et ta sœur, les pièges ne te touchent pas, tu ne tombes pas. Voyez ? Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Moi, je bénis le Seigneur pour les relations que nous avons entre nous. Cultivons ça, gardons ça, c'est précieux ça, c'est précieux. Et encore une fois, la semaine dernière, il y a une sœur qui vient me dire, qui me dit, tu sais, cette situation-là, on l'a réglée, on s'est vu, on s'est pardonné, c'était super. Et voilà, on garde cet état d'esprit. 1 Jean 3, versets 11 à 18. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive l'exemple de Caïn qui appartenait au diable, qui a égorgé son frère. Pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Et voici comment nous savons ce que c'est aimer. Jésus nous a donné la vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est la parole qu'on a reçue. D'ailleurs, dans cette parole, lorsque le mot vie, c'est psyché. c'est-à-dire celui qui ne perdra pas sa vie, c'est la psyché, ça veut dire ses façons de penser. C'est pas la vie physique, tu vois, je vais me faire flinguer par amour pour mon frère, c'est pas ça, hein. Le mot grec, c'est psyché, c'est pas pareil, hein, attention. Hein. Donc, n'allez pas vous faire tuer comme ça, hein, c'est idiot. Hein. On a besoin de vous, les amis. Hein. Donc, attention, prenez cette parole bien comme il faut. Toutes les fausses pensées, les façons tordues de raisonner, on arrête. Oui. Même longueur d'onde. Même psyché, c'est par exemple, ce frère-là, c'est un minable. Ça, c'est ta psyché, quoi. Eh bien, il faut arrêter avec ça. C'est une créature de Dieu, avec une destinée. Il est racheté par le sang de l'agneau, il est précieux. Donc, c'est des pensées. La psyché, c'est le psychique. C'est nos raisonnements, c'est nos pensées, nos propres pensées. Et c'est la notion de l'âme. C'est la notion de l'âme, voilà. Et cette âme, Dieu veut la restaurer. Il veut la toucher, il veut la guérir. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est notre psychique, nos façons. Parfois, ça peut toucher nos valeurs qui sont tordues par rapport à celles de Dieu. Donc voilà, nos systèmes, notre vision du monde, notre façon de voir le monde, de voir l'Église aussi. Ça, c'est le psyché, de voir Dieu. Dieu dit, voilà, moi, je veux te libérer là-dedans. Je veux que tu vois avec mes yeux. Dieu est celui qui veut illuminer, Éphésiens, les yeux de notre cœur. Et le cœur, c'est le lieu de la psyché. Le cœur, c'est le lieu de la pensée. Jésus a dit, du cœur viennent les mauvaises pensées, mais les bonnes aussi viennent du cœur. Et donc le cœur, c'est là où l'on pense, Dieu veut toucher notre cœur. Et quand il dit, je te conduis au désert, parce que je veux parler à ton cœur, eh bien parfois il permet ce désert pour que justement, on soit confronté à nos psychés tordus. Voilà, c'est un peu ça. Ça va, ok, merci. Oui, il ne faut pas hésiter, on est un petit nombre, on peut s'arrêter. Donc Koinonia, c'est aussi, ça parle aussi... Donc, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. Et dans la notion de koinonia, il y a aussi la notion de libéralité. Et je tiens à bénir chacun d'entre vous, vraiment pour la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes, qui nous permet d'être fidèles dans les remboursements. Il faut savoir qu'en ce moment, nous sommes dans une piste de renégociation du crédit pour le bâtiment, qui permet d'inclure, qui permettrait... parce que c'est au conditionnel, d'inclure les quelques travaux qui restent pour cette phase 1, très peu qui restent, mais pour la phase 2 qui englobe en bas tout le rez-de-chaussée. Donc, qui permettra. Donc voilà, nous sommes là-dedans, merci de prier par rapport à ça, mais merci pour votre fidélité. On marche dans la foi en tant qu'Église, je peux vous le dire, le trésorier c'est Stéphane, et chaque fois il me dit, oh là là, mais comment on va payer ça à la fin? Et puis à chaque fin du mois, voilà, Dieu est fidèle. Ça marche tous les coups. Donc voilà, nous sommes une église dans la foi, mes amis. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si les rentrées vont suffire, mais les rentrées, elles suffisent. Et c'est vraiment un beau signe du Seigneur. Et donc, des frères maintenant qui s'attachent les uns l'un à l'autre. Et vous voyez ces oiseaux-là? On les appelle les inséparables. Je les ai vus en Australie. C'est une race d'oiseaux, allez voir sur Internet, c'est très intéressant. Ils ont quelque chose à nous dire. Ils sont fidèles jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils sont inséparables. Ils sont tout le temps en train de faire des gazous. Regardez ces oiseaux-là, toujours en train de se bécoter, comme ça, c'est vraiment ça. Donc des frères qui ne lâchent rien, on ne lâche rien, mes amis. Et comme dans toutes les familles, parfois il y a des zones de haut, des hivers, voilà. Et puis, mais on sait à qui on appartient. Et c'est pour ça qu'on peut arriver jusqu'au bout. Donc s'attacher, des frères qui ne lâchent rien. On franchit, un amour qui franchit les obstacles. Un amour qui persévère. Un amour qui est fidèle. Et que les crises dans l'amour deviennent des opportunités. C'est ça aussi le truc. Les crises, c'est pas le diable tout le temps, mais c'est une opportunité. Voilà. Et puis, il y a aussi des frères qu'on ne peut diviser. Donc, c'est le principe du combat spirituel. Je rappelle, au niveau du combat spirituel, si une famille, on peut pas... Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même, Matthieu 12, 25, est dévasté. Toute ville ou maison, famille, au sens large, divisée contre elle-même, ne peut pas subsister. Mais vous voyez, parfois on parle de division. Mais moi, parfois, il n'y a pas de division. Mais parfois, il y a un manque de cohérence, vous voyez. On n'est pas divisé, mais on marche les uns à côté des autres. C'est parfois ça qui arrive. Et là, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. Dieu non seulement ne veut pas qu'il y ait de division, mais il veut qu'on soit attachés les uns aux autres. Et est-ce que tu es conscient que la destinée personnelle que Dieu t'appelle, ton appel personnel de Dieu sur ta vie, il dépend aussi de l'appel collectif. Et quand on comprend ça, on va tout faire pour que l'appel collectif, on y réponde. Et par ricochet, ton appel à toi, il se révèle aussi. Donc voyez, ces écailles du crocodile, c'est assez fabuleux. Et les conséquences de cette koinonia, eh bien, juste une petite remarque avant, mais au 19e siècle, il y a eu le réveil de l'évangélisation, en particulier avec la proclamation de Jésus Sauveur Seigneur. C'est le siècle des grands évangélistes comme Wesley, Finney, Spurgeon, qui prêchaient le Christ, la croix, la repentance. Vraiment un réveil par rapport à la notion de naître de nouveau. C'est vraiment Dieu qui a réveillé son Église. Les missions du 19e, sur la Chine, partout dans le monde, sont parties. Le 20e siècle, c'était le réveil du Saint-Esprit. Nous parlons de Azusa Street, le Pays de Galles, les mouvements de pentecôtistes, le ministère de guérison, tiens, toute Catherine Kuhlmann. Tout d'un coup, on remarque que Dieu veut guérir nos corps aussi. Il s'intéresse à tout le Seigneur, pas seulement à ton âme. Et donc, il y a une restauration. Le 21e siècle, c'est quoi? Eh bien, on remarque actuellement depuis 20 ans, 19 ans, 20 ans, c'est le réveil du Père. C'est le réveil de la paternité, c'est le réveil de la notion de famille. C'est un véritable tsunami de Dieu. Pour que le Père vienne habiter sa maison, il faut une famille. Sinon, s'il n'y a pas de famille, il ne peut pas habiter sa maison. Donc le réveil du Père dans la plénitude. Et je pense qu'on veut vivre ces trois dimensions, au moins en même temps. Et voyez donc, une des conséquences de la koinonia, c'est la dimension de l'autorité dans le combat spirituel. Déjà, le tabernacle prochain de louange que nous aurons, c'est une sainte convocation. C'est déjà pour la fête des tabernacles, mais cette fête des tabernacles, quand on loue ensemble, je vous rappelle, ce n'est pas seulement de la louange, c'est aussi louange et proclamation, décret de Dieu. Et quand nous sommes dans les lieux célestes en train de louer, d'adorer, combien de fois ici, tout d'un coup, on a un fardeau pour une nation, on a un fardeau pour Israël, on a un fardeau pour Paris. Et ce fardeau, ce n'est pas un fardeau de lamentation. Tout d'un coup, en tant que corps dans la louange, combien de fois c'est arrivé, ça arrivera encore. Tout d'un coup, un décret d'autorité. On parle sur la ville de Paris, on parle sur la France, à partir d'un lieu élevé, des hautes louanges. Donc, la dimension du combat spirituel, regardez, ça c'est au temps d'Israël, le tabernacle qui est au centre, regardez l'alignement, chaque tribu avait sa place. Dans chaque tribu, vous avez les tentes qui parlent de famille. Chacun aligné, aligné vers quoi? Aligné vers la présence de Dieu. Toutes les familles alignées vers la présence de Dieu. Et c'est ça qui a fait ce peuple-là, avant l'héritage de la terre promise, commencer à s'aligner en tant que famille. Et c'est ça qui a permis la conquête de Canaan. Et en tant qu'église Josué, le mot Josué parle de conquête. Mais ça parle d'abord de Josué qui aimait dans la tente de la rencontre, présence de Dieu. Mais Josué qui a pu mettre aussi cet ordre, voyez, au niveau de la famille. Chaque famille une bannière, chaque famille un appel. C'est particulier ça. Dans le livre des Nombres, il est dit ceci d'étonnant, c'est que si tu ne fais pas partie d'une famille, tu ne peux pas aller à la guerre. Ça c'est le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, il est dit, chapitre 1, verset 1, 2, 3, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 21 jusqu'au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes. » Donc, le choix était fait dans les familles. Le recrutement se faisait dans les familles. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de guerre. Tu ne vas pas à la guerre. Et je pense que ça nous parle. Nous sommes dans une guerre. Ce pays est en guerre spirituelle. Et Dieu est en train d'aligner les familles et de les lever ensemble, chaque tente alignée sur la tente du tabernacle, chaque tente, chaque famille était une arme de Dieu dans le combat. Tu es en tant que famille une arme de Dieu. Et quand je parle de famille, il y en a qui parfois c'est des familles éclatées, il y a des gens qui sont tout seuls. Mais quand je parle de famille, je parle aussi de la famille spirituelle que nous formons, qui est une famille, pas de substitut, mais qui est une réelle famille. Et ça c'est quelque chose, Dieu appelle les familles à être alignées. Chaque drapeau, chaque bannière caractérisait une tribu et une famille. Et en fait, les drapeaux nous parlent de la vocation particulière de la famille. Chaque famille savait sa destinée, sa vocation, son don dans l'ensemble. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très fort. En Occident, on enseigne beaucoup les gens à avoir leur énoncé de mission personnelle. C'est quoi ta destinée? C'est quoi ta mission? C'est quoi? On parle beaucoup de notre destinée, mais notre destinée personnelle. Mais Dieu dit, maintenant, ça c'est bien, pour un moment. Mais moi, je veux vous parler de la destinée de ma famille. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et cette autorité qui se dégage de cette destinée-là, elle dépasse toutes les autorités. Les familles, vous voyez, au camp israélite, vous avez les Lévites les plus proches dans le tabernacle, le service du temple, et vous aviez toutes les tribus. Et vous voyez la tribu de Judas, le plus près, ceux qui louent l'Éternel, le plus près, hein, de, comme famille positionnée. Mais chacune avait son rôle et sa bannière. Et voilà, chaque bannière est un énoncé de mission. Deuxième conséquence de la koinonia, c'est l'exaucement des prières. Ça, c'est la photo du culte Knef 68 qu'on a vécu à Colmar il y a quelques semaines. Et 5000 personnes, et il y a eu des moments forts, en particulier le moment où tout le monde a prié pour la région et le Haut-Rhin, en se levant d'une même voix, prier pour la région. Ça, c'est quelque chose de très fort. Vous avez tous ces passages, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, vous demanderez tout ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Quand il est question de demeurer en lui, demeurer en lui, hein, demeurer en lui, ça veut dire quoi? C'est pas seulement en lui en tant qu'individu, mais lui c'est qui? Lui, il n'est pas seulement Jésus dans le ciel, tout ça. Jésus, il est le corps. Il est le corps de l'Église, c'est son corps. Donc quand je dis, je vais prier, soyez en lui, ça veut dire je suis à la fois relié à la tête, mais je suis relié au corps. Et quand je prie en son nom, ça veut dire que je suis positionné dans la famille de Dieu. Et c'est ça qui donne les plus grandes autorités dans la prière que l'on va trouver dans beaucoup de passages. 1 Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et 1 Jean 3, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, que nous nous aimions les uns les autres, comme il a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Donc voyez, tu crois, tu aimes, tu es exaucé. Tu crois, tu aimes avec les autres et tu es exaucé. C'est assez simple quand même. Hein. Tu fais confiance, tu aimes, exaucement. Et ça, c'est le Seigneur veut nous rappeler cette année, être dans le livre des Actes, vous avez plusieurs fois la formule, être d'un commun accord, c'est un style de vie, être à l'unisson. Efficacité dans le témoignage, la koinonia a comme but aussi l'efficacité du témoignage. C'est-à-dire que lorsqu'il est dit afin que tous, acte 17, Jean 13 déjà, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 17, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, que moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, et nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. L'unité, c'est pour que le monde, vous voyez? Donc, c'est pas les bisounours, encore une fois. La communion fraternelle, c'est pas seulement pour se chatouiller et faire des guizou-gouzous, hein, des gazou-gazous, ça dépend le niveau où vous en êtes. Mais le but de la koinonia, c'est d'être un témoignage pour le monde. Hein. C'est ça, c'est que ça frappe et ça influence et ça change les atmosphères. Voilà, efficacité dans le témoignage. Et nous avons aussi, quand il y a la révélation du Père dans une église, eh bien les fils reviennent à la maison. Et je crois que nous ne sommes pas tout à fait prêts encore, mais je crois qu'il y a beaucoup de fils et de filles prodigues avec tout leur bagage lourd, pesant. Et est-ce qu'on est prêt à les accueillir avec toute leur odeur du monde et tout ça? Peut-être pas encore, mais Dieu, vous nous donnez cet amour du Père pour que les fils se sentent bien à la maison et se sentent accueillis, même les pires d'entre eux. L'huile, il est question aussi de l'huile d'onction, résultat de la koinonia, psaume 133. Quel plaisir c'est pour des frères, quel bonheur d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend d'Hermon sur le mont Sion. C'est là, regardez, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie. C'est dans la koinonia que Dieu accorde la bénédiction. Voilà, donc nous voyons qu'il y a vraiment quelque chose qui est fort. Et pourquoi le crocodile apostolique? Parce que Le mouvement apostolique, apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être envoyé. Et le plan de Dieu, c'est que le gouvernement du ciel descende sur cette terre. Ça, c'est le côté apostolique. C'est la vision apostolique. Le ciel descend sur la terre. Et ce mouvement, c'est faire descendre, réconcilier tout avec Jésus. Eh bien, le moyen de faire cela, eh bien, le plan de Dieu, c'est révéler la notion de famille, les frères, les sœurs, les pères, les mères, briser l'esprit d'orphelinat. Dans notre pays, les lois qui sont en train d'être votées, elles sont votées par des députés, etc., dont beaucoup d'entre eux sont des orphelins. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de loi. Donc on réduit tout à une vision individualiste des choses. Et donc nous sommes bien loin, et je pense qu'on n'a pas à juger non plus. Mais on a une église qui vit la famille, elle impacte le monde beaucoup plus, ou au moins tout autant que des témoignages qu'on pourrait donner. Voyez, il y a les œuvres qui parlent, mais le fait de vivre une communauté au Moyen-Âge, au 10e, 11e siècle, c'était la catastrophe. Les papes, ils étaient complètement pourris, ils vivaient dans la débauche, l'église était complètement déréglée, et il y a un gars qui s'est dit, mais on ne peut plus continuer comme ça. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il faut changer le monde, aller de ville en ville? Comment changer tout ça? Et Dieu lui a montré, tu vas bâtir des communautés où on va m'adorer, on va enseigner les enfants, des communautés qui vont vivre une autre atmosphère que la culture qui est environnante. C'était Saint-Benoît, etc., avec le Christ au centre. Et je peux vous assurer que ces communautés-là ont fait basculer la culture en siècles. Alors c'est long, hein, mais le témoignage d'une communauté peut changer l'atmosphère d'une ville. C'est ce que je veux dire. Parfois, on veut toujours faire. Dieu dit, sois déjà, et tu vas voir ce que ça va donner. Donc, voyez, soyons une famille. Et ça, s'il n'y a pas ça, on pourrait évangéliser le monde entier, et ça, on aura toujours autant d'orphelins. Donc voilà, je termine bientôt. Ce mouvement apostolique de Dieu est un mouvement relationnel de Dieu. Des pères et des mères qui font descendre le ciel sur la terre et passent la bénédiction d'une génération à une autre. J'ai remarqué une chose étonnante, pourtant je la connais ma Bible, mais on ne la connaît jamais assez. Vous avez remarqué que tant qu'Adam est créé, l'ennemi ne l'embête pas. Adam, c'est très bien Adam, tu es créé fils de Dieu, image de Dieu. Très bien, on te laisse tranquille. Mais le moment où il y a eu Ève et ils sont devenus une famille, alors là ça a chauffé. Là ça a chauffé, pourquoi? Parce que le mandat culturel n'a pas été donné à Adam, il a été donné à Adam et Ève. Et le mandat culturel, c'est domine sur les animaux, sur la terre, cultive le jardin, domine sur le cosmos. Je te confie l'autorité sur tout mon monde, ma terre à moi. Il l'a pas confié à un individu, il l'a confié à une famille. C'est pour ça que la famille est tellement secouée, voyez. Alors ça, mes amis, c'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce message. L'ennemi n'embête pas les individus, pas autant, mais quand il y a une famille, là, c'est pour ça que je salue, je fais cette parenthèse, je salue ce ministère des fabricants de joie au niveau du pays qui sont un des instruments pour restaurer les familles. Et je pense que, famille, je t'aime aussi, il y a beaucoup de... On veut célébrer tous ces ministères parce que derrière une restauration d'une famille, il y a le mandat d'une autorité de gouverner. C'est ça qui est tellement, tellement fort. Donc, voyez, le plan de Dieu, je lis plusieurs choses. Le plan de Dieu, c'est que le gouvernement des cieux descende donc sur cette terre. Quand Adam marchait avec dans le jardin avec Dieu, qu'il labourait, qu'il nommait les animaux, c'était un super-homme, 100% des capacités d'intelligence. 100%, il marchait avec Dieu, 100%, le jour, la nuit, sans arrêt. Et pourtant, il n'était pas une menace pour le diable. Tant qu'il était seul, il ne pouvait pas se reproduire, vous comprenez? Donc, ni dominer la terre. Il n'était pas une menace pour le diable, jusqu'à ce qu'il se marie. Parce que là, il y a le potentiel d'avoir des enfants, et il y a le mandat de Dieu. Donc c'est Adam et Ève qui représentent l'image de Dieu. C'est Adam et Ève, une famille, qui reçoit le mandat du Seigneur. Et l'Église, c'est quoi? C'est une famille composée de familles. Et nous avons ce mandat. Et on termine en accueillant les enfants. L'héritage de la famille Josué, c'est eux, d'accord? C'est nos enfants, c'est Dieu. C'est l'éducation, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est cette maison du tissage pour centre de formation, de bénédiction. C'est la vallée du Florival, ce sont les nations, c'est Jésus qui l'a dit, et c'est le ciel et c'est la terre. Mes amis, quel bel héritage nous avons. On veut terminer en priant. Seigneur, merci pour la famille que nous formons. Merci pour ce crocodile apostolique, Seigneur. Les frères qui se serrent les uns les autres pour prendre l'héritage qui est le leur. Et Seigneur, en tant que famille Josué, merci pour tous nos enfants, merci pour tout ce que tu fais dans cette église, que chaque pierre, chaque individu, chaque famille s'emboîte dans ce corps pour former une habitation de Dieu pour l'Esprit. Seigneur, nous te célébrons et nous bénissons ton nom. Garde-nous, Seigneur, dans un esprit de bonne volonté, de foi, jusqu'à ce que nous rentrons dans le plein héritage que tu as pour nous. Et nous décrétons que c'est nous qui changeons les atmosphères et ce n'est pas nous qui nous laissons séduire par les atmosphères. C'est nous qui, d'un culte authentique qu'on offre à Dieu, déborde sur la culture et bénit cette culture. Merci Seigneur, que ta bénédiction, ta grâce soit sur chacun de nous et nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Mes amis, soyez bénis, passez un bon dimanche. Président.
Merci Luc.
Oui, veillée de prière, enfin, Yom Kippour, donc mercredi soir à la maison, tente de la rencontre de l'heure 18h à 20h. Donc ce mercredi, tente de la rencontre, maison de prière, créneau Yom Kippour.
Ok, ouais. Et du coup, on ne veut pas oublier les dîmes et les offrandes pour ceux qui veulent déposer leurs offrandes discrètement. Un bon dimanche à tout le monde. Et puis, soyez bénis, soyez gardés sur la route du retour. Au revoir. Tu veux que je leur rappelle ? Pour les enfants, pour les parents des enfants, 13, 14, 15 ans, on veut... C'est juste un rappel. On aimerait voir au niveau de l'organisation comment est-ce qu'on veut s'organiser pour le groupe